Et le billet politique de Frédéric Seitz. Bonjour Frédéric.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Ce matin, vous avez décidé de ne pas revenir sur la nomination d'un journaliste au poste de porte-parole de l'Élysée.
Oui, il serait pourtant tentant de faire un billet match-retour en quelque sorte, après les politiques qui deviennent chroniqueurs, ces journalistes qui cèdent aux sirènes du pouvoir politique, ainsi que l'a donc fait Bruno Roger Petit, éditorialiste jusqu'ici au magazine Challenge. Mais après tout, passer 3 minutes à disserter sur ce transfert serait peut-être faire un peu trop d'honneur à une forme de confusion, entretenu déjà depuis plusieurs mois, tant à longueur de colonne semblait avoir été confondue la carte de presse et la carte d'électeur. Cette affaire n'affecte pas d'ailleurs tant l'homme que sa profession d'origine, le journalisme politique, qui trouvera malheureusement un argument de plus dans la bouche de ses contempteurs, ce qui était d'ailleurs peut-être le but recherché par le nouvel employeur. Alors, intéressons-nous plutôt au fond, presque occulté hier par ce tumulte médiatico-politique, et notamment au discours d'Emmanuel Macron devant les ambassadeurs, discours riche, évidemment le premier du genre de ce quinquennat, comme l'a relevé Nadine Epstein sur notre antenne. Le chef de l'État a commencé par une prise de position sémantique en insistant, en assumant le terme terrorisme islamiste, loin de la prudence de François Hollande, certains diront même du déni, lui qui privilégiait les termes plus abstraits de fanatisme et d'obscurantisme. Mais c'est une autre rupture qui nous a marqué, rupture à bas bruit dans ce discours, sans éclat de voix mais très symbolique, tout simplement la mort assumée de l'Europe à 28. Emmanuel Macron le dit clairement, impossible d'avancer en étant aussi nombreux.
Notre ambition n'est pas de gérer, mais de transformer. Et ce Brexit est arrivé parce que pendant des années, nous n'avons plus osé proposer, nous n'avons même plus osé nous réunir dans le simple format de la zone euro pour ne pas chagriner qui les Britanniques, qui les Polonais. Quel remerciement avons-nous à la clé ? Allons.
Il y avait là comme un paradoxe à entendre Emmanuel Macron, qui fut le candidat le plus pro-européen de la campagne, confirmer tranquillement ce que tous les eurosceptiques ou les eurocritiques hurlaient depuis des années. Dans les grands sommets européens, plus la photo de famille est large, plus les avancées sont minces, semblait nous dire le président français. Alors évidemment, la nécessité de recréer des espaces de décision à plusieurs vitesses a souvent été évoquée. Laurent Fabius parlait par exemple des 3 cercles, mais on en restait en fait à des cercles concentriques des institutions enchevêtrées. Par exemple, le groupe des pays de la zone euro à l'intérieur de l'Union européenne. Cette évolution des formats de discussion qu'annonce Emmanuel Macron avait déjà été pressentie sur les grands dossiers comme celui de l'Ukraine. Souvenez-vous, ce n'est pas l'Union européenne qui était à la table des négociations, mais ce qu'on appelle le format Normandie, Russie, Allemagne, Ukraine et France. Emmanuel Macron est allé plus loin la semaine dernière sur le dossier du travail détaché, toujours sur ces formats, en organisant une réunion à 4 pays de l'Union européenne, France, Autriche, Slovaquie et République tchèque, une forme de bande à part théorisée hier devant les ambassadeurs. Le président français a même revendiqué l'adjectif opportuniste.
Pour cela, il nous faut être mobile, autonome, capable de nouer des alliances et de jouer pleinement le jeu multilatéral. À la fois nous inscrire dans la tradition des alliances existantes et de manière opportuniste, construire des alliances de circonstances qui nous permettent d'être plus efficaces.
Alors attention, l'image est trompeuse. Le problème, c'est que le format réduit n'aplanit pas les différences pour autant. À l'écran, on a vu Emmanuel Macron faire du travail détaché la priorité absolue de ce club des 4, la réforme de la directive. Mais si l'on prenait le temps de regarder l'intégralité de la conférence de presse et pas uniquement celle du président français, alors on s'apercevait que les Tchèques et les Slovaques n'étaient pas exactement sur la même longueur d'onde, ne mentionnaient pas en tout cas le travail détaché comme leur première priorité. Écoutez par exemple le président slovaque.
Je suis très heureux que nous ayons pu traiter un sujet qui divise un peu l'Union européenne, celui de la migration. Nous avons eu l'occasion d'expliquer aux collègues français et autrichiens qu'il est impossible de baser la politique d'asile sur les quotas.
Alors on est loin, c'est vrai, de la télégénique poignée de main avec Donald Trump, mais il faudra tout de même suivre les applications de cette idée d'atomiser l'Europe pour la rendre plus efficace. Emmanuel Macron semble en tout cas vouloir appliquer au niveau européen la méthode qui lui a réussi pendant la campagne française, et de droite et de gauche. Il se garde sur sa droite en réformant le code du travail, c'était demandé par la Commission européenne depuis longtemps, en visant les 3% de déficit dès cette année, au prix d'une grogne générale et d'une démission du chef d'état-major français. Mais il se garde aussi sur sa gauche, avec cette remise en cause de la directive du travail détaché et l'esquisse d'une forme de protectionnisme appliquée par exemple au chantier naval de Saint-Nazaire. Cela réussira-t-il ? Mystère, il faudra pour le savoir écouter les comptes rendus du nouveau porte-parole de la présidence qui devra paradoxalement être un peu plus nuancé que dans ses éditoriaux s'il veut être crédible et écouté à son nouveau poste.